Dans notre enseignement d'hier matin, nous avons vu les bases de la consécration d'un chrétien et notamment la façon dont Dieu lui-même consacre l'être humain à travers le baptême. Et en réponse à cette œuvre de Dieu, eh bien, nous sommes invités à donner notre consentement, en fait, de choisir nous-mêmes cette appartenance, reconnaître que nous dépendons de Dieu, en fait. Et donc, dans ce matin, je vais vous proposer justement de passer à une deuxième partie, à cette deuxième partie de la méditation sur la consécration. Comme je disais en fin de l'enseignement la fois dernière, nous avons ici à Parlémonial justement le lieu par excellence où nous pouvons méditer sur cette réponse que Sainte Marguerite Marie, Saint Claude ont donnée à l'amour de Dieu en se consacrant au Sacré-Cœur. Mais évidemment, ils n'étaient pas les premiers à le faire, ni les derniers. Donc, dans une première partie de cet enseignement, cette méditation de ce matin, je vous propose justement de voir un peu ces spiritualités, ces différents mouvements de consécration au cœur de Jésus, qui est toujours lié à la consécration au cœur de Marie. Et c'est pour ça que certains parlent d'un seul cœur, hein, comme c'est Jean Eudes. Et c'est pour ça que nous pouvons parler d'une même consécration, en fait. Et dans la démarche proposée ici durant cette retraite, à Jésus par Marie, eh bien, nous vous proposons de faire cette petite préparation hein, en deux étapes. Hein. D'abord, justement, de nous confier à la Vierge Marie avant de nous livrer totalement au cœur de Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui sait mieux faire, quoi. C'est elle qui nous apprend. Hier soir, on a entendu dans l'enseignement concernant la liturgie du cœur de Marie, comment ce cœur de Marie a été totalement livré au Seigneur et comment il a été transformé profondément, parfaitement, on peut dire même. Hein. Je ne dis pas identifié au cœur de Jésus, mais tellement unique, hein, son cœur ne fait qu'un avec le cœur de Jésus. Et donc, dans la deuxième partie de cet enseignement, je vais vous proposer de nous laisser guider plus par le Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, hein, qui a trouvé des formules aussi très accessibles et une façon de nous entraîner dans cette consécration à la Vierge Marie qui, elle, nous conduit vers cette consécration totale au cœur de Jésus. Donc, alors, dans la première partie, bon, évidemment, étant en parlémonial, c'est normal de se rappeler ce que les fondateurs de l'ordre de la Visitation ont proposé aux filles qui voulaient consacrer leur vie à travers cette règle de vie de la Visitation. Vous savez qui sont les fondateurs, vous les avez sous l'image là, François de Sales et Mère Jeanne de Chantal. Dans la fresque de la chapelle des apparitions, vous les avez représentés à droite, hein, tous les deux, à genoux, en regardant le cœur de Jésus, et même en souriant d'ailleurs, vous voyez, parce que c'est important, hein, de regarder le cœur de Jésus, oui, qui est blessé, mais qui est source d'amour et de joie en fait, et de paix, on l'a entendu dans la louange tout à l'heure. Alors, dans une lettre que François de Sales écrivait à Mère Jeanne de Chantal, il disait ceci juste quelques mois après la fondation. « Notre petite congrégation est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur, en mourant, nous a enfantés par l'ouverture de son Sacré-Cœur. » C'est étonnant comme expression. Mais il faut se rappeler en fait que François de Sales avait une dévotion particulière au cœur de Jésus, et même il a proposé que les armes de la Visitation soient justement ce cœur, hein, déjà représenté comme étant transpercé, couronné d'épines, avec une croix plantée dedans. Et dans les coutumiers des sœurs de la visitation, qui sont, je pense, encore en vigueur aujourd'hui, il est proposé aux religieuses de faire cet acte d'offrande d'elles-mêmes à peu près sous cette forme. J'offre et consacre à notre divine majesté et à la sacrée Vierge Marie, votre mère, Notre-Dame, ma personne et ma vie. Je m'abandonne à jamais totalement à votre divin amour, auquel de réchef je me dédie et me consacre. Je choisis Jésus, mon Seigneur, pour l'unique objet de ma dilection. Et en effet, Marguerite Marie, qui a bénéficié de cette tradition, enfin de cette spiritualité, elle a vécu dedans, quoi. Hein. Ben, elle-même conseillait aux novices, hein, un peu plus tard, quand elle a été nommée maîtresse de novices, et elle donnait ce conseil à un moment donné. C'était, je pense, en 1686, durant le temps de l'Avent. Ô divin cœur de Jésus, vivant dans le cœur de Marie, je vous conjure de vivre et de régner dans tous les cœurs et de les consommer dans votre pur amour. Il disait cela, voilà, vous allez dire, les filles, vous allez dire cette prière. Voilà. Divin cœur de Jésus, vivant dans le cœur de Marie. Là, ici, je vais faire une petite parenthèse. Cette expression, le cœur de Jésus vivant dans le cœur de Marie, c'était une expression utilisée par Jean Eudes, Saint Jean Eudes, lui aussi représenté sur la fresque. Celui qui est le premier théologien du cœur de Marie et du cœur de Jésus. Et à l'époque de Marguerite Marie, cette fête du cœur de Marie était déjà célébrée dans ce diocèse d'Autun depuis 1648. Je l'avais déjà dit cela à l'heure sainte. Mais c'est bien d'avoir ça en tête, vous voyez. Et Jean Eudes avait aussi demandé et obtenu de la part de l'Église la célébration déjà de la fête du Sacré-Cœur à partir de 1672, donc avant que les grandes apparitions de Marguerite Marie, enfin que Jésus a donné à Marguerite Marie, soient commencées. C'est ainsi que la Providence travaille, hein. Elle prépare le terrain, voilà. Et puis le Seigneur, lui, il est toujours cohérent, vous voyez, il a la suite dans les idées, on dit. Donc, Marguerite Marie a été donc baignée dans cette spiritualité, de cette union du cœur de Jésus et de Marie. Et puis d'ailleurs, comme on le sait bien, elle avait elle-même une immense confiance envers la Vierge Marie. Et c'est comme si déjà, c'était la Vierge Marie qui conduisait son cœur à recevoir ses révélations. Et d'ailleurs, l'ordre de la visitation elle-même est essentiellement marial, hein. C'est la visitation de la Vierge Marie, c'est cet amour du cœur de Marie qui était le modèle de toutes les sœurs, d'ailleurs. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est une chose importante. Donc, Jean Eudes a déjà transmis à l'Église cette réflexion, cette méditation, et a expliqué en quoi et combien il est fort ce lien entre le cœur de Marie et de Jésus. Mais lui-même, à son tour, a été... je dirais influencé, enfin, c'est nourri, hein, de toute la spiritualité de l'école française en France dans ce XVIIe siècle, qui a été surtout développée par le cardinal de Bérulle. Et donc, ce cardinal de Bérulle avait compris, d'une part, que la vie chrétienne ne peut pas s'arrêter simplement à des manifestations extérieures, une pratique religieuse, voilà, très fidèle même, mais qui se centre surtout sur les actes extérieurs, mais il s'agissait d'essayer d'entrer dans la vie intérieure, dans une relation de cœur à cœur avec le Seigneur Jésus, et donc de découvrir sa sainte humanité, comme il disait, qui doit être le centre de la vie spirituelle, en fait, de tout chrétien. Et il s'agissait donc pour lui, de Bérulle, que toute la vie chrétienne soit une reconnaissance de la part du chrétien de ses dépendances, de l'amour de Dieu. Et donc, il invitait les chrétiens à faire une démarche personnelle, une sorte de choix, hein, une adhésion volontaire au Seigneur, qui est de l'ordre intérieur. Alors, je peux vous donner quelques citations, mais je vais m'arrêter à une seule. Simplement, il disait à un moment donné, « Pour l'honneur de Dieu, il nous faudrait ramasser tout notre être pour rendre gloire à Dieu dans un prosternement le plus habituel d'adoration et de respect. » C'est l'État qui honorerait le mieux le Seigneur, alors que notre dispersion, ça nous parle, hein. On sait ce que c'est qu'être dispersé aujourd'hui, hein. Et il dit même notre divertissement, on est accaparé par des diverses et multiples préoccupations, on a la tête partout, quoi, et on a du mal à nous intérioriser, quoi, hein. De plus en plus, on dirait. Alors, il dit, notre divertissement est en contradiction avec la vocation de notre dignité de créature. Dignité de créature qui veut dire quoi? Ben justement que nous avons un créateur de qui nous dépendons. Et si on oublie cela, il y a quelque chose qui manque. Donc, il ne faut pas s'étonner s'il y a beaucoup de crises dans le monde. Hein, dès qu'on enlève le Seigneur, enfin, cette dépendance d'un créateur, tout est déstabilisé, en fait, vous voyez bien. C'est là la vocation de tout notre être où le Créateur a inscrit un instant de retour vers lui. Dans notre cœur, il y a cet instant. Déjà, saint Augustin disait que notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi, Seigneur. Et on le sent bien, cette soif de spiritualité. Alors évidemment, c'est ce qui est mystérieux aujourd'hui encore. C'est qu'on voit bien que tout en rejetant d'une manière ou d'une autre le Créateur, beaucoup cherchent quand même à se recueillir, quoi, hein. Des méditations, des dialogues spirituels, des pratiques spirituelles de toutes sortes, hein, parce que cette soif intérieure, personne ne peut l'arrêter, en fait, hein, vous voyez, dans l'être humain. On est fait comme ça. Et Bérulle dit cela. Et il finit cette phrase en disant, à l'intérieur de notre cœur, c'est là que Dieu lui-même nous consacre, nous dédie, hein, et nous offre par ses propres mains à lui. C'est très profond. Hein. Il est en train de dire qu'en fait, ben oui, nous allons nous offrir au Seigneur, mais en réalité, c'est encore lui qui fait cela, parce que nous, on ne sait pas le faire. Voyez, il nous prend dans ses mains et il nous attire vers son cœur. Voilà, autrement dit. Mais vous voyez déjà, de Bérulle, justement, au début du XVIIe siècle, en fait, il est né à la fin du XVIe siècle, hein, et cela, il l'écrivait vers 1629, quelque chose comme ça. Hein, et même lui-même a découvert ce désir, hein, en lui, hein, de se dépouiller de tout usage de soi-même, disait-il. Déjà en 1602, hein, il avait fait une retraite, il a découvert en fait que l'essentiel de la vie chrétienne, c'est cela. Donc, il est mort en 1629, hein, voilà, de Bérulle. Donc, tout en nous invitant les chrétiens en cette intériorité, bien, il disait aussi qu'en fait, nous avons aussi besoin absolument de nous confier à la Vierge Marie en disant que la vie de Jésus en Marie doit être le modèle pour tous les chrétiens. Et cette expression, Jésus vivant en Marie, hein, vient déjà de lui. Jean-Eudes rajoutera « Le cœur de Jésus est vivant dans le cœur de Marie ». Vous voyez, c'est la même réalité, en fait. Hein. Et Bérulle disait encore que c'est important de se consacrer à Marie. Pourquoi? Pour qu'elle fasse vivre Jésus en nous. Et donc, il utilise une expression un peu, je dirais, bizarre pour nous, hein, peut-être. Il parle d'un esclavage envers la Vierge Marie. dans lequel les chrétiens doivent entrer, qu'ils doivent choisir. Nous devons choisir de nous rendre esclaves de Marie. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, on sait bien, l'esclavagisme n'était pas encore disparu. Hein. Et donc, cette idée voulait dire simplement une dépendance. Hein. On est dépendant de quelqu'un. Alors, le mot esclavage, esclave, c'est quelque chose de très fort, bien sûr, hein, mais ce n'est pas du tout une question de domination, vous voyez, écrasante de la part de Marie sur les enfants de l'Église. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Marie est pour Bérulle, dit-il, je cite, « pure capacité de Jésus », c'est-à-dire un réceptacle, vous voyez, capacité. Et elle est capable d'accueillir Jésus, et elle n'est que ça. Et elle est remplie de Jésus. Ce sont des expressions très fortes, voilà. Il dit, elle est toute consacrée, toute oblate, toute victime. La Vierge est comme un non-être de soi-même, pour faire place à, avec une majuscule, l'être de Dieu et à son opération. Alors, il reconnaît donc à Marie, en sa vertu de sa maternité divine, un droit et un amour spécial de donner Jésus aux âmes. Il engage ses disciples à reconnaître cette grâce mariale par une consécration, une oblation spéciale à Marie, qui se situe en dépendance et dans la ligne justement de cette, je disais tout à l'heure, servitude à Jésus. Il dit ceci, une dernière citation, dans une conférence qu'il avait donnée en août 1612 sur la dépendance vis-à-vis de la Mère de Dieu. « Ainsi en est-il pour les serviteurs de la Bienheureuse Marie. Si en vertu de sa miséricorde, elle daignait nous prendre et nous inscrire, pour ainsi dire, au nombre de ses esclaves, nous pourrions attendre de Dieu de nombreuses grâces. » Eh bien voilà, c'est pour dire un peu d'où ça vient cette... ces expressions, hein, d'où elles viennent, ces expressions, cette spiritualité aussi, qui a utilisé Jean Eudes, qui a utilisé aussi François de Chantal, et puis voilà, maintenant, Marguerite Marie, et puis on verra dans quelques instants aussi Claude. Et comme je disais, dans la deuxième partie de la méditation d'aujourd'hui, on va s'arrêter un peu plus sur Louis-Marie Grignon de Montfort, qui lui, il est, je dirais, encore plus... il va plus loin encore, je dirais, au niveau de la théologie, de cette théologie, du rôle de Marie dans notre vie chrétienne. Marguerite Marie elle-même a composé un acte de consécration au Sacré-Cœur. C'est parce que la Vierge Marie nous aide à nous consacrer au cœur de son Fils, finalement. Hein. Et elle disait ceci, je vous ai mis que le début de cette offrande d'elle-même. Je me donne et consacre au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ ma personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances. Et c'est là que ça devient un peu exigeant, même très radical, pour ne plus vouloir me servir d'aucune partie de mon être, que pour l'honorer, l'aimer et le glorifier. Ça, c'est clair. Je me donne à toi parce que je ne veux plus décider de moi-même. Alors, c'est pas rien, ça. Hein. Alors, elle continue en disant, « C'est ici ma volonté irrévocable que d'être tout à lui et faire tout pour son amour, en renonçant de tout mon cœur à ce qui pourrait lui déplaire. » Vous voyez déjà cette histoire de renoncement à ce qui est obstacle, ça nous vous rappelle quoi? Un renouvellement de quelle promesse? Ben, notre baptême. Hein. Parce que c'est cela, vous voyez, cette consécration au Sacré-Cœur est toujours comme un renouvellement de cette appartenance au Seigneur depuis notre baptême, cette consécration baptismale, comme je vous le disais hier. Et ensuite, Marguerite Marie continue, « Je vous prends donc au Sacré-Cœur pour l'unique objet de mon amour. » Bon, allez, vous allez dire, évidemment, c'est une religieuse, elle n'avait pas à dire autre chose. Elle a donné toute sa vie au Seigneur, évidemment, c'est lui son époux. Hein. Donc, bon, voilà, c'est simple. Oui, mais enfin, quand même. Hein. Ben, allez voir les personnes consacrées et demandez-leur si c'est si facile que ça que de faire ce choix, vous voyez, l'unique objet de mon amour. Déjà, dans la liturgie, nous avons des expressions, des prières où on demande au Seigneur, souvent après la communion, « Seigneur, donne-nous de te servir avec un cœur sans partage. » quel qu'il soit notre état de vie, hein, quel qu'il soit, un cœur sans partage. Et bien, c'est ça, en fait. Elle dit, enfin, voilà, je ne veux pas partager mon cœur, hein, je choisis le Seigneur, c'est tout. Le protecteur de ma vie, l'assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de mon inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie et mon asile assuré à l'heure de ma mort. La consécration continue, vous pouvez la trouver et vous en nourrir, hein, les jours qui viennent. Ça vaut la peine de prendre comme un modèle, c'est un exemple, vous voyez, qu'elle a essayé de vivre elle-même et qu'elle nous incite à appliquer dans notre vie. Alors, l'autre exemple qui nous est donné ici à Palais-Monial, Saint-Claude, lui qui n'a jamais eu d'apparition ni de vision, voilà, il s'est laissé lui-même enseigner par Marguerite Marie. Bien sûr, il était là pour la guider, l'aider dans son discernement. Mais quand il a entendu tout ce que le Seigneur lui disait, qu'il a reconnu que c'est vraiment sa voix, enfin la volonté du Seigneur, il a été tout, lui-même profondément touché. Et donc, dans l'histoire, dans les témoignages que nous avons de cette époque, on voit bien comment lui-même a décidé de se consacrer au Sacré-Cœur. Alors, on discute beaucoup sur la date, comment il a fait, est-ce qu'il a fait tout seul cette consécration, de lui-même ou non, ou avec Marguerite Marie, enfin, en même temps, on ne sait pas très bien. Le fait est que dans ses écrits, on trouve quand même des expressions comme celle-ci. Je veux que mon cœur ne soit désormais que dans celui de Jésus et de Marie. C'était un jésuite, hein, Claude de la Colombière. Hein. Et voilà qu'il utilise des expressions des eudistes, enfin, d'une autre donc, congrégation, donc, qui est en fait inspirée de cette spiritualité de l'école française de l'époque. Voyez. Que mon cœur ne soit désormais que dans celui de Jésus et de Marie, que celui de Jésus et de Marie soit dans le mien, afin qu'il lui communique leur mouvement. Leur mouvement, ça veut dire quoi? Ben, leur volonté, en fait, hein, leur désir, même leurs sentiments. Saint Paul le disait, hein, ayez entre vous les mêmes sentiments, les mêmes dispositions qui sont dans Jésus, notre Seigneur. Donc, il n'invite pas qu'une charité entre nous et mettons-nous d'accord les uns avec les autres. Non, il disait mettons-nous d'accord et ayons les mêmes sentiments, les mêmes mouvements, on pourrait dire, que ceux qui sont dans le cœur de Jésus. Et donc, voilà, Claude dit, et qu'il ne s'agite, donc mon cœur, hein, qu'il ne s'agite ni ne s'émeuve que conformément à l'impression qu'il recevra de ces deux cœurs. L'impression veut dire quoi? C'est justement un pacte, vous voyez, une influence. Un agir, une action. Et ça nous rappelle le sceau, vous voyez, le sceau du baptême qui a été déjà imprégné en nous. Et donc on a reçu cela, mais il dit, ben voilà, ben je veux être cohérent à ma vie de chrétien. C'est-à-dire laisser cette grâce du baptême se déployer à moi selon la volonté de Jésus et de Marie. Bon, c'est un saint, lui, hein, jésuite en plus. Hein. Donc ces expressions-là méritent beaucoup de méditation et surtout quand on a son acte d'oubli de soi-même, là aussi il faut prendre du temps pour comprendre qu'est-ce qu'il a voulu exprimer ce Saint-Claude. Alors, je vous ai mis seulement deux phrases. C'est une prière qu'il a composée déjà quand il était un peu à Londres déjà, hein, en 1677. On pense que c'est vraiment le but de sa vie, comment dire, l'accomplissement de sa propre vocation que cet acte d'oubli de soi-même que vous trouvez hein, dans la chapelle Saint-Claude. Sacré-Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même. Et la phrase continue, car c'est la seule voie par où l'on peut entrer en vous, entrer dans le cœur de Jésus. C'était ça pour lui la consécration. Et il dit, bah, même cela, c'est ta volonté, donc faites en moi votre volonté Seigneur, c'est à vous à tout faire, dit vainqueur de Jésus-Christ. Je ne peux pas y arriver tout seul, donc si tu veux que je sois saint, si tu veux que je t'appartienne, ben t'as qu'à t'en occuper, quoi. Enfin, t'as qu'à me donner ta grâce. Hein. Donc je te fais confiance. Oui, c'est très simple, cet acte de confiance qu'il nous donne avant même cette consécration, ben c'est tout simple. Il dit, voilà, ben j'ai besoin de toi. Je veux t'appartenir, mais c'est toi qui dois le faire. Bon. Donc, voilà, c'est deux saints qui nous encouragent à nous consacrer nous-mêmes au cœur de Jésus avec une grande paix. Alors, l'image de la mosaïque qui représente la vision de 2 juillet 1688 que Marguerite Marie a eue 2 ans avant sa mort, peut nous nourrir notre méditation, notre préparation. Si vous allez devant cette mosaïque, hein, comme vous voyez un peu ici, là, vous allez regarder plein de choses. Hein, voilà déjà le lien entre Jésus et Marie. Hein, et dans cette vision, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est la Vierge Marie qui adresse la parole, vous rappelez. Et puis après, il y a les anges gardiens de chaque personnage qui font quoi? Qui tiennent dans leurs mains un cœur, le cœur de chaque personnage. Voilà, je l'ai expliqué ça à certains d'entre vous hier. Et nous l'expliquons d'ailleurs à tous les pèlerins qui viennent à Parlémonial. Hein. Et ces anges gardiens, en fait, aident chacun d'entre nous, notre ange gardien, hein, nous aide à offrir notre cœur au cœur de Jésus. Et on voit plus ou moins clairement, mais si vous regardez surtout à droite, vous voyez, à droite, sur l'image, je peux essayer de vous faire un zoom là-dessus. Regardez ici, cet ange. Vous voyez ça? Vous voyez, il tient le cœur avec sa main gauche et avec la main qui le tend comme ça, vous voyez? Et avec sa main droite, c'est comme s'il dit au Seigneur, voilà, prends, Seigneur, ce cœur. Pourquoi on a besoin de... Vous voyez, hein? C'est... Et puis, mais les autres, ils font pareil, en fait, hein, vous voyez? Bon, alors, c'est trop beau, hein? Bon, l'image, elle est comme elle est ici, dans ces couleurs comme ça, mais on peut aller passer du temps hein, qu'il faut dans cette chapelle. C'est très beau de nous laisser aussi préparer dans notre acte de consécration, par les images aussi. Hein, donc chacun choisira sa façon de se préparer pour cette démarche. Et enfin, quand Jean-Paul II a canonisé Claude de la Colombière, il a fait appel, enfin rappel, hein, il a rappelé pour toute l'Église cette importance de la consécration au cœur de Jésus, consécration qui est don de soi pour laisser la charité du Christ nous animer, nous pardonner et nous entraîner dans son ardent désir d'ouvrir à tous nos frères les voies de la vérité et de la vie. C'est la fin de l'homélie de la canonisation de Claude de la Colombière, faite par Jean-Paul II, le 31 mai 1992. Alors, je reviendrai un peu sur Jean-Paul II tout à l'heure, mais alors, voilà quelques propositions concernant la démarche que nous pourrons faire tout à l'heure en nous tournant vers le cœur de Jésus, en nous laissant aider par, évidemment, la Vierge Marie. Alors, je passe à la deuxième partie, où ce sera plutôt Louis-Marie Grignon de Montfort qui va nous guider, nous éclairer. Je pense que vous avez entendu parler de cette prière qu'il nous a laissée, hein, de consécration à la Vierge Marie. Certains la disent régulièrement, d'autres un peu moins, de temps en temps, voilà. Louis Grignon de Montfort est connu justement pour, bien sûr, ses écrits, surtout pour ce qu'on appelle le secret de Marie et le traité de la vraie dévotion de la Vierge Marie. Il a vécu entre 1673 et 1716. C'était à son tour un élève, enfin un disciple du cardinal de Bérulle, en fait. Et donc, il a repris cet enseignement, il a voulu le personnaliser, le transposer, l'adapter à son époque. Alors, ce qu'on sait de lui, c'est que, d'abord et avant tout, c'est un grand missionnaire. Donc, son désir, c'était d'aller voir les pauvres, les malades, et il sentait un grand amour pour eux. C'est une des premières choses importantes. Évidemment, il va susciter des oppositions, il va connaître des persécutions, et il va aller voir le pape Clément XI, qui, pour lui marquer officiellement sa bienveillance, il lui donne un crucifix et lui confère le titre de missionnaire apostolique. À son retour, il parcourt la Bretagne, d'où il était originaire, parlons de Rennes, et aussi il parcourt la Vendée et organise plus de 70 missions paroissiales. Alors il va mourir d'ailleurs au cours de l'une d'entre elles. Alors ces méthodes d'apostolat vont s'inspirer de celles de ses prédécesseurs pour justement rendre accessible, enfin je dirais populaire, cet appel à la sainteté que certains pensaient réservé à une élite, quoi. Donc lui, il dit, comment est-ce que je vais faire répandre cet appel du Seigneur pour tous, quoi? À travers les cantiques qu'il a composés lui-même, des conférences dialoguées, des débats. Après, il s'est dit, qu'est-ce qu'ils aiment les gens? Les processions. On va faire des processions. Et donc, il va organiser, des processions dans un grand recueillement. Souvent, après le sermon, on partait en procession comme ça. Bien sûr, il passait du temps à confesser et puis à proposer aux gens cette démarche d'expiation, de réparation, qui a ses racines aussi dans ces demandes de Jésus ici à Palais-Monial. Et alors, évidemment, la communion, parce que l'hérésie du jansénisme n'était pas encore disparue complètement, encore, de son temps. Et encourager les gens à recevoir la communion, c'est là encore dans la ligne droite du message du Sacré-Cœur à Marguerite Marie. Quand elle lui demande, comment est-ce que je vais te montrer, Seigneur, que je t'aime, que je console ton cœur et que je ne veux pas être indifférente à ton amour. Et le Seigneur lui répond quoi? Tu vas communier le plus souvent possible, autant que la règle te le permet, et surtout les premiers vendredis du mois. Bon, voilà, donc c'est ce mouvement de renouvellement de l'amour envers la communion avait déjà commencé bien avant. C'est enseignement de Louis-Marie Grignon de Montfort, lui va le proposer dans ses missions. Et enfin, il s'est dit, si tous les chrétiens sont baptisés, c'est qu'ils ont reçu en eux quelque chose d'extraordinaire, vraiment une grâce surnaturelle, le baptême. Il faut renouveler ses vœux du baptême, il faut les aider, ces chrétiens, à renouveler cette appartenance au Seigneur. Et donc, son originalité dans ce sens se manifeste justement dans son choix de faire prier devant les tableaux du rosaire, donc déjà prendre la Vierge Marie comme une aide, mais aussi de faire comme une sorte de contrat d'alliance avec le Seigneur. Et on a parlé hier un tout petit peu de cela. La nouvelle alliance, elle est inscrite dans nos cœurs, mais nous avons besoin de la renouveler tout le temps. Alors, il proposait cette expression qui sera développée par la suite. « Je me donne tout entier à Jésus-Christ par les mains de Marie pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. » C'est une phrase qui se trouve dans la prière de consécration. Alors, cette brève prière, en fait, c'est la traduction populaire de la consécration ou parfaite dévotion, comme il va l'appeler, qu'il veut montrer qu'elle n'était pas réservée à une élite. Et il voulait prêcher cela à tous. Et donc lui, il fut un des premiers à donner au renouvellement des vœux du baptême une place essentielle au cœur des cérémonies de la mission. Parce que déjà, il était encouragé par le pape Clément XI, comme je le disais, qu'il avait envoyé faire renouveler partout l'esprit du christianisme par le renouvellement des vœux du baptême, disait le Saint-Père. Alors, c'est vraiment le point essentiel que je vais essayer de développer un tout petit peu et que, sur lequel on va insister aussi cet après-midi et puis aussi la veillée de ce soir. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, on parle assez facilement de ce renouveau des vœux du baptême, surtout à la vigile de Pâques, comme je le disais hier. Bien sûr, quand on est baptisé enfant, c'est le parent et la marraine qui sont chargés à déclarer, cette profession de foi durant la liturgie de baptême. Mais Louis-Marie Grignon de Montfort, il va innover en introduisant un don de soi-même au Christ par les mains de Marie durant cette cérémonie de renouvellement des vœux du baptême. Pourquoi? Parce qu'il dit que Marie est le meilleur chemin pour se donner à Jésus. Et je vous ai montré déjà, je vous ai cité une phrase de cette consécration. Alors, il y en a une autre qui sera développée. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps, mon âme, mes biens intérieurs, extérieurs, la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures. Pourquoi par les mains de Marie? Il dit, c'est un chemin aisé. C'est un chemin que Jésus-Christ a frayé en venant à nous. Ben, c'est vrai. Pour pouvoir nous rejoindre, ben, il a pris une de ses créatures qu'il a choisies hein, librement pour se faire homme. Donc, il a lui-même choisi la Vierge Marie comme un moyen, en fait, ouais, un chemin. Et où il n'y a aucun obstacle pour arriver à lui. Donc le chemin de retour à Dieu se fait aussi par Marie. On peut, à la vérité, arriver à l'union divine par d'autres chemins, bien sûr. Mais ce sera par beaucoup plus de croix, de morts étranges, et avec beaucoup plus de difficultés, que nous ne vaincrons pas, que nous ne vaincrons que difficilement. Il faudra passer par des nuits obscures, par des combats et des agonies étranges, sur des montagnes escarpées, pas sur des épines très piquantes et des déserts affreux. Voilà, ce sont des expressions qui, de son expérience, enfin, bon, montrent en effet qu'avancer sur un chemin n'est pas toujours évident, quoi. Donc, probablement que dans ses missions, ben, voilà, ben, il devait passer par des collines escarpées, des épines, des déserts, enfin, des moments difficiles. C'est des exemples concrets qui touchent notre vie spirituelle aussi. Ça vous arrive, non, de passer parfois par des moments où on vous dit « j'en ai marre, je prie, Dieu ne m'écoute pas, je suis comme dans un désert, dans la nuit ». Ça peut vous arriver. Ou alors, vous peinez à vous débarrasser d'une faiblesse. Ou encore, vous avez du mal à rester concentré à l'adoration ou à la prière. Non, ça vous arrive? Non, vous êtes dans une communion, un contact parfait avec le Seigneur, eh bien, je vous admire. Je vous admire, priez pour moi hein, et pour nous tous qui peinons, qui avons de la peine. Eh bien voilà, le Père Louis-Marie nous dit, par le chemin de Marie, on passe plus doucement et plus tranquillement. On a besoin d'elle, quoi. On a besoin pour qu'elle nous aide. Et c'est pour cela que voilà, il avait écrit cet enseignement, il a développé voilà le traité là, que je cite là, le numéro 152. C'est le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Alors le manuscrit de ce livre est demeuré pratiquement inconnu pendant plus d'un siècle. C'est ça qui est mystérieux. Hein. Personne ne savait hein, pendant plus de 100 ans. Et lorsque finalement presque par hasard, il fut découvert en 1842 et publié seulement en 1843, mais il a connu un succès immédiat, énorme. Et il s'est révélé étant une œuvre d'une efficacité extraordinaire dans la diffusion de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie. Alors, son enseignement, pour l'expliquer un tout petit peu, hein, c'est, en fait, c'est ça, c'est le thème de notre week-end, à Jésus par Marie. Parce que c'était la volonté de Dieu d'unir les deux cœurs de Jésus et de sa mère, pas seulement pour le temps limité de leur vie terrestre, mais dans une même mission de salut des hommes jusqu'à la consommation des siècles. Donc, c'est une citation, celle-là, de Jean Eudes, je vous l'avais dit tout à l'heure, vous voyez, cette union de cœur de Jésus et de Marie, vous avez les dates de sa naissance et de sa mort. 1601-1680, Jean Eudes. Et donc, cela a inspiré aussi Louis-Marie Grignon de Montfort. Et en fait, il a développé cette doctrine qui a été bien sûr ensuite approuvée d'une manière officielle par l'Église. Et je me permets de citer voilà, le Concile Vatican II concernant justement ce rôle maternel de Marie dans notre vie, dans la sanctification de l'Église même. À partir du consentement que Marie apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle maintient dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce, c'est-à-dire durant notre histoire de salut hein, sur la terre, durant sa vie elle-même hein, d'ailleurs, eh bien, cette maternité se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Ça veut dire quoi? Que la Vierge Marie a eu un rôle important dans la vie de Jésus, mais pas seulement durant sa vie terrestre, mais même après. Et quand Jésus lui dit au pied de la croix, voilà, voici ton fils, ce fils-là, le disciple que Jésus aimait, en fait, c'est chacun d'entre nous, hein, et chacun des êtres, des fils et des filles de Dieu, au long de toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité est comprise dans ce regard maternel, dans le cœur maternel de Marie. Et donc, si elle est partie au ciel, corps et âme, c'est pour continuer ce rôle maternel, vous voyez? C'est un peu ça que le Concile Vatican II dit. C'est une citation du Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église numéro 62. Et donc, cette union, je dirais ce travail commun quoi, entre Jésus et Marie pour sauver l'humanité, découle justement de la volonté même de Dieu. Enfin, c'est le Seigneur qui a voulu ainsi. Hein, prendre Marie comme quelqu'un qui intercède pour nous, qui reste toujours près de nous pour nous aider à mieux être sauvés par le Seigneur. Et donc, de cette union-là, découle évidemment aussi l'explication de la consécration à Jésus par Marie, que nous appelons souvent consécration à Marie, mais c'est un, on peut dire aussi un abus de langage, hein, parce que en fait, le titre exact de la prière, c'est que Louis-Marie nous a laissé, c'est consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, par les mains de Marie. Bon, je reviendrai un peu tout à l'heure. Alors, il y a une autre chose importante qui nous aide à comprendre le rôle de Marie, justement pour mieux nous unir au Seigneur Jésus, c'est l'Esprit-Saint dans sa vie. Quand le Saint-Esprit, l'époux de Marie, bon, c'est une expression qui est à expliquer, parce que l'Esprit-Saint n'est pas le Père de Jésus. Hein. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit l'a trouvé dans une âme, quand il a trouvé Marie dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. C'est-à-dire que si un chrétien accueille Marie chez lui comme maman, l'Esprit-Saint s'y précipite, quoi. Et donc, ce qu'il veut dire, c'est ceci, en fait. Plus je me donne à Marie, plus je permets à l'Esprit-Saint de m'imprégner. Une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit, dit lui Marie, ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse, avec la Vierge Marie. Alors, ce lien entre la Vierge Marie et l'Esprit-Saint, on le connaît, on sait qu'elle a été couverte de l'ombre de l'Esprit depuis l'Annonciation, mais depuis sa conception, elle a été immaculée, hein, vous l'avez approfondi un peu hier soir cela, parce que à cause du mérite de Jésus mort sur la croix, elle est la première des sauvés, vous voyez. Et donc, c'est la première qui a reçu en plénitude déjà l'Esprit-Saint, depuis son existence, en fait. Et donc, elle est remplie de l'Esprit-Saint. Et quand Louis-Marie, Grignon de Montfort, parle du secret de Marie, il est en train de dire, en fait, c'est que le secret de Marie, c'est qu'elle veut nous livrer, nous aider, en fait, à accueillir cet Esprit comme elle, en fait. Le secret de Marie, bon, si on veut le comprendre, ben c'est l'Esprit-Saint. Il faut le demander, ce secret, à elle, qu'elle nous le découvre. Alors, ce lien entre Marie et l'Esprit-Saint est très fort, au point qu'on peut dire que pour se livrer au mieux à l'Esprit-Saint, il importe de se livrer à Marie, dit lui Marie encore. Alors maintenant, concernant la consécration elle-même, voilà comment elle est nommée, je vous disais tout à l'heure, de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie. Et là, plusieurs expressions que nous connaissons, mais il faut quand même pas oublier, ben là, malheureusement ici, il est pas très, c'est pas écrit en grand, vous allez pas voir. J'insiste sur un point important, comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel d'ailleurs, hein, c'est une démarche de renouvellement des vœux du baptême. Alors, cette prière commence avec, je dirais, une introduction qui est adressée à Jésus d'abord, hein, sagesse éternelle à qui voilà, on veut se donner, et puis à un moment donné, lui, Marie, propose cette expression, moi, et puis chacun dans son nom, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains les vœux de mon baptême. Donc il explicite, voyez, ce renouvellement de la consécration baptismale. Et ça consiste en quoi? Ben, d'une part, au renoncement pour jamais à Satan, il dit encore à ses pompes et à ses œuvres, c'est un langage du XVIIIe siècle, hein, donc bon, faut bien le traduire pour aujourd'hui, ben, on le dit dans notre rituel du baptême, vraiment, aux œuvres du mal, quoi, et l'auteur du mal, qui est Satan. On renonce, je renonce, et il faut bien le dire, ça. Hein. Et puis on a à le faire, je pense, assez souvent, hein, d'ailleurs. Et ensuite, dans ce choix, on exprime tout simplement voilà, ce désir de se donner tout entier à Jésus-Christ. Je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Vous voyez, c'est un engagement très simple, mais très, très clair. Hein. Le chrétien se rappelle de qui il dépend, quoi. Ouais. Et que le Seigneur vit en nous, en fait. Hein. Donc, suivre le Seigneur plus fidèlement qu'on l'a fait jusqu'ici. Et c'est juste après cette expression, ce renouvellement de vœux du baptême, que commence cette prière très connue, « Je te choisis aujourd'hui en présence de toute la cour céleste pour ma mère et maîtresse, etc. » Alors, cette prière, nous allons l'approfondir, la méditer, je dirais l'expliquer un peu plus cet après-midi. Là, pour comprendre un peu à quoi consiste cette expression et à quoi nous nous engageons quand nous faisons cette consécration, cette livraison de nous-mêmes et de tous nos biens, etc. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est simplement pour vous dire, pour terminer, deux, trois points concernant la façon dont lui, Marie, Grignon de Montfort, voit la façon dont on peut se consacrer à elle, en fait, et les degrés, je dirais, de la vraie dévotion à la mère de Dieu. Il dit qu'en fait, il y a des personnes qui ont une relation avec le Seigneur, et donc du coup avec la Vierge Marie, comme des commençants, quoi. Enfin, ce sont des débutants, on peut dire, voilà. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus progressantes. Et enfin, ils les appellent les parfaits, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà bien avancé dans la vie spirituelle. Alors, il dit qu'au premier degré, la dévotion à Marie consiste à prier de temps en temps, la Vierge Marie, avec recueillement, bien sûr. Par exemple, on prie l'Angélus, ou comme on est maintenant dans le temps de Pâques, le Regina Caeli. Quand on entend les cloches, on se dit, tiens, bon, je vais penser à Marie. Bon, ça dure quelques instants et c'est déjà très beau. Et la Vierge Marie est sûrement très heureuse. Elle est très heureuse. Deuxièmement, quand il s'agit de ceux qui ont déjà avancé un peu, qui sont des progressants, deuxième degré, eh bien, la dévotion à Marie devient le principe de sentiments plus parfait encore, plus profond, d'estime, de vénération, de confiance, d'amour, et qui nous incite à passer un peu plus de temps avec la Vierge Marie. Par exemple, en disant le chapelet, Ah ben, il y en a d'autres qui disent même le rosaire, ça veut dire quatre chapelets. Ouais, ça prend plus de temps, cela. Hein. Ben, d'autres encore, peut-être ils peuvent lire d'autres livres sur la Vierge Marie, ou alors méditer les passages de l'Écriture un peu plus longuement, vous voyez. Et enfin, troisième degré, la dévotion à Marie porte à se donner tout entier à elle, en se consacrant à elle, pour être tout entière par elle à notre Seigneur. Alors, il ne s'agit pas de dire maintenant en quelle étape je suis et se comparer aux autres, ou même se comparer à soi-même. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il s'agit d'accueillir un appel que le Seigneur veut nous adresser à chacun d'entre nous. Et donc, si, peu importe, parce qu'on peut se dire, je suis maintenant à ce degré-là, donc je suis bien avancé, hein, donc c'est quand même, je suis quand même bien. Hein. Donc, j'ai encore quelques pas à faire, j'arrive au bout. Ben, peut-être pas, parce qu'il peut y avoir un moment, une tempête, un ouragan, on va entendre dans la messe tout à l'heure, d'ailleurs. Puis peut-être on doit revenir à la caisse de départ, quoi, comme on dit, hein. Donc il y a des moments dans notre vie où on doit peut-être revenir à l'essentiel. Voyez. Et donc cette offrande totale à la Vierge Marie ne veut pas dire qu'on a tout réglé, quoi, en fait. Hein. C'est une offrande que nous pouvons faire et qu'on a à refaire sans cesse, d'ailleurs. Et donc justement, concernant ce renouvellement des vœux du baptême hein, que nous faisons avec la Vierge Marie, voilà, l'Église nous dit ceci au Lumen Gentium numéro 10, par la régénération et l'onction de l'Esprit Saint, les baptisés sont consacrés pour être une maison spirituelle, un sacerdoce saint. Donc Dieu a fait déjà une fois pour toutes quelque chose de très beau, très fort en chacun d'entre nous, en vue d'offrir des sacrifices spirituels, moyennant toutes les œuvres du chrétien. Et donc du coup, ça veut dire que toute la vie, on a des offrandes à faire, quoi, hein, d'annoncer les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alors, cette annonce n'est jamais terminée. Il y en a encore qui n'ont pas encore entendu. Hein. Donc, il y a du boulot. Hein. Enfin, on a encore des choses à faire. Et le Concile nous dit que tous les disciples du Christ, en persévérant dans la prière et en louant Dieu ensemble, s'offrent donc eux-mêmes comme une hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, qui rendent partout témoignage au Christ et à qui ils le demandent, rendent compte de l'espérance de la vie éternelle qui est en eux. Donc, vous voyez, cette persévérance, ben, le Concile l'appelle l'offrande permanente. C'est vrai qu'on peut faire cet acte de consécration radical, d'ailleurs, hein, une fois, pour toutes, je dirais. Mais on a à refaire cet engagement. On a à y revenir tout le temps, là-dessus. Je vais m'arrêter ici. Je vais vous laisser prendre un peu de temps, voilà, dans la journée pour méditer, réfléchir, prier déjà la Vierge Marie, parce que c'est elle encore, hein, qui va vous apprendre de quelle façon vous pouvez mieux vous préparer. Alors évidemment, quand Louis-Marie Grignon de Montfort conseille cette consécration à Marie, il dit qu'il faut vraiment se préparer, hein, parce que ce n'est pas, excusez-moi l'expression, de la rigolade, quoi. Hein. Et il demande même une quarantaine de jours de préparation, hein, à un moment donné. Mais il dit, voilà, pour la Pâque, on a besoin d'un carême, ben voilà, pour se consacrer à Marie, on a besoin du temps. Hein. Donc il a même des formules très précises, 7 jours, 9 jours, 33 jours, hein, de façon différente de se préparer, c'est-à-dire de prendre le temps pour intérioriser et intégrer cette prière. Et pour finir, on peut aussi demander l'aide de Jean-Paul II, qui lui-même a vécu cette consécration, ce qu'il la disait tous les jours, en entier d'ailleurs, et qui reste aussi pour nous, voilà, quelqu'un qui est tout proche, parce qu'il est passé ici à Palermonia, Jean-Paul II, hein, vous le savez, et dans la basilique, il y a même une relique de lui, si vous voulez passer à la basilique, oui, derrière le chœur. Tout au fond, là, il y a un tableau de Jean-Paul II et puis une relique qui est exposée. Vous pouvez aussi vous approcher. Il disait, sans lui, Marie Grignon de Montfort constitue pour moi une référence significative qui m'a illuminé dans les grands moments de ma vie. Et on connaît tous, hein, l'attachement qu'il a vécu à la Vierge Marie et à quel point, voilà, ben, il s'est consacré à elle. Il a voulu aussi consacrer l'humanité, hein, juste après son attentat, hein, hein, qui était le signe hein, d'un miracle, en fait, hein, d'un amour de la Vierge Marie envers lui. Il a consacré l'humanité au cœur immaculé de Marie. Ce n'est pas pour rien que la devise a été cela. Hein. Totus, tous, hein, tout est à toi, Marie. Alors, je vous propose maintenant de terminer nous-mêmes par un dernier encouragement hein, qui nous a été donné par Saint Maximilien Kolbe, lui aussi, hein, inspiré de toute cette spiritualité. Il disait ceci: Ô Vierge bénie, Immaculée Conception, toutes les grâces qui jaillissent du divin cœur de Jésus et s'écoulent sur nous passent par vos mains maternelles. Voilà. Ma mère Thérèse aussi, qui passait par les moniales aussi, elle a encouragé aussi à se consacrer au cœur de Jésus, évidemment avec l'aide de Marie, en disant que l'amour commence à la maison et le cœur de Jésus doit être le centre de cet amour. La consécration est une façon de toucher et d'unir toutes les familles. Cela apporte la paix, l'unité aux familles désunies.